36. J'ai bien compris. Tu as attiré notre attention sur l'extraordinaire complexité du roman et du personnage, et des personnages. Si j'ai bien compris, l'utopie ne s'oppose pas à la réalité, elle intervient dans la réalité, elle féconde la réalité, Sancho Panza est fécondé et fertilisé par Don Quichotte. Autrement dit, il s'agit de deux personnages complémentaires, tout comme en nous, il y a un Don Quichotte et un Sancho Panza. Nous n'avons pas à vraiment parler, à choisir notre camp, celui de l'idéalisme quichotiste contre le prosaïsme de Sancho Panza. Nous n'avons pas à choisir la sagesse populaire contre l'extravagance et la folie. Il y a en nous un appel à la folie et il y a en nous une pesanteur de la sagesse qu'il faut savoir combiner pour que nous soyons véritablement hommes.
C'est tout à fait mon sentiment, disons. Je crois que, une fois de plus, avec cette espèce de précision qui te caractérise, tu viens de mettre le doigt sur le caractère exemplaire de cette complémentarité. Cette complémentarité qui nous habite, qui est mise en situation à travers deux personnages, mais c'était comme si, en écrivant ce roman, Don Quichotte nous disait, voilà ce que vous êtes à la fois chacun, Don Quichotte et Sancho Panza. En vous cohabitent l'idéalisme, la générosité folle, et puis le bon sens lourd, grave, qui doit tenir compte des exigences du réel. Et j'ai toujours été frappé, pour ma part, par le sens que pouvait avoir la guérison, entre guillemets, de Don Quichotte. Vous savez que il nous apparaît que dans ce roman, en tout cas, Don Quichotte nous intéresse surtout quand il est fou. Il nous intéresse par sa prodigieuse capacité de rejeter le monde tel qu'il est pour suivre son idée de monde idéal à créer. Don Quichotte nous intéresse surtout par sa capacité à dénoncer l'ordre établi. Il nous intéresse surtout par sa capacité de refus du monde tel qu'il existe. Parce que ce qu'il voudrait, le monde dans lequel il souhaiterait vivre fondamentalement, c'est un monde d'amour, un monde de justice, un monde où les inégalités seraient totalement abolies. Et c'est en cela qu'il est fou de générosité. Et lorsqu'il guérit, quand il revient à la lucidité, je crois qu'il n'est pas sans signification qu'il cesse de nous intéresser au point qu'il n'a plus qu'à se dédaigner dans une espèce de médiocrité ambiante et finalement mourir. Si bien que, à mes yeux, la leçon du Quichotte serait que un monde sans folie est un monde condamné à l'échec et à la mort. C'est la générosité, c'est l'idéalisme, c'est la poésie qui féconde et qui ouvre les portes de l'avancée humaine. Parce que sans folie, et en se contentant simplement de ce qui est, nous n'avancerions pas. Ce que Cervantes dit de façon un peu symbolique à travers ce roman, c'est ce que nous savons avec tous les découvreurs, avec tous les utopistes, avec tous ceux qui ont fait avancer l'humanité. C'est toujours à la base d'un rêve, c'est toujours à partir d'une utopie, c'est toujours à partir d'une conviction qui allait à l'encontre de tout ce qui était admis à l'époque officiellement, que le monde a pu progresser. Et elle tourne, disait Galilée. Et Christophe Colomb disait, bon, il y a une route pour découvrir un nouveau monde. Et ce que Cervantes a l'air de dire à travers le Don Quichotte, c'est que la folie est nécessaire. La folie est fertilisante. Elle est fécondante. C'est elle qui nous permet non seulement de vivre et de supporter des injustices et des misères du temps présent, mais c'est elle qui nous ouvre toutes grandes les portes du devenir. Et qu'il faut être fou. Il y a un formidable plaidoyer pour la folie dans le Don Quichotte. Il faut savoir décrypter ce message, mais je crois qu'à travers la mort de Don Quichotte, ce n'est pas du tout comme on aurait pu le penser le triomphe du prosaïsme quotidien, c'est au contraire l'affirmation que sans folie, le monde est sans objet et qu'il n'a plus qu'à se dissoudre.